Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 avril 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 210 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du budget fédéral de 2024 et plus particulièrement, je vais élaborer sur les nouvelles mesures du gouvernement pour supposément faciliter l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs au Canada. Et ensuite, je veux vous reparler de l'inflation parce que ce matin, on avait les données de l'IPC, l'indice des prix à la consommation au Canada. La semaine dernière, c'était l'IPC aux États-Unis. Et dans les deux cas, l'inflation semble vouloir repartir à la hausse. Donc, je veux vous parler de ça et surtout, en fait, les répercussions que ça peut avoir sur l'économie, les marchés boursiers, mais aussi sur votre cash et vos investissements. Donc, c'est un peu les sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui sont venus me voir au Salon du Livre de Québec. Donc, c'était la fin de semaine passée. Ça a été une super belle expérience de pouvoir parler à des auditeurs, tu sais, en personne. J'ai été surpris de voir à quel point il y a du monde qui me suit depuis longtemps, là, des années. Il y a du monde qui ont écouté en rafale les 200 quelques épisodes. Donc, c'est sûr que d'entendre les gens me dire qu'ils aiment le contenu, puis qu'ils me trouvent intéressant, puis qu'ils aiment ça les sujets que j'aborde, j'ai trouvé ça extrêmement gratifiant et ça m'a motivé à continuer d'enregistrer mon podcast à chaque semaine. Donc, merci à tous ceux et celles aussi qui se sont procuré mon livre « Les règles du jeu ». N'hésitez pas à me donner votre feedback suite à votre lecture. J'ai hâte d'entendre vos avis à ce sujet-là. Et là, je vais commencer tout de suite avec le budget fédéral de 2024 parce que je pense que ça va être un gros épisode. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui se passe présentement. Donc, comme je l'ai dit au début de l'épisode, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, veut mettre en place des mesures pour faciliter l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs. Et la première mesure qu'ils ont annoncée, c'est qu'ils ont l'intention de faire passer de 35 000 $ à 60 000 $ la limite du régime d'accession à la propriété, donc le RAP. Et ça, évidemment, c'est pour les personnes qui épargnent en vue d'une mise de fonds pour leur première propriété. Et la deuxième mesure, c'est pour permettre à un plus grand nombre de jeunes au pays d'acquérir leur première maison. Et la ministre des Finances a annoncé que dans son budget 2024, le gouvernement fédéral allait autoriser une période d'amortissement pour le prêt hypothécaire de 30 ans dans le cas où les premiers acheteurs achetaient une habitation neuve. Et tout ça, ça a l'air d'être des super bonnes idées, des super bonnes mesures pour faciliter l'accès à la propriété. Par contre, c'est facile à prévoir que ces mesures-là vont augmenter la demande parce que ça va permettre à plus de gens de devenir des acheteurs, entre autres pour une maison neuve. Sauf que là, la vraie problématique, c'est pas un problème du côté de la demande. La problématique, c'est du côté de l'offre. C'est-à-dire qu'il manque, il n'y a pas assez de maisons, il n'y a pas assez de logements disponibles. Et bien franchement, c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Il faut bâtir des propriétés, il faut accélérer les demandes de permis de construction, faciliter le dézonage, etc. Actuellement, on voit l'inverse. En fait, au mois de mars, par rapport à février, les mises en chantier ont reculé de 7% au Canada. Donc, on n'est pas en train d'avoir une effervescence de construction de logements au Canada, au contraire. Et là, essayer d'améliorer l'accès à la propriété en facilitant l'admission pour un prêt hypothécaire avec une période d'amortissement sur 30 ans, puis en bonifiant le RAP, à ce moment-là, on ne règle pas le problème de l'offre. Au contraire, parce que là, il va y avoir un plus grand déséquilibre parce que plus le bassin d'acheteurs est important dans un contexte où l'offre est insuffisante, bien plus ça met une pression haussière sur les prix. Autrement dit, les mesures du gouvernement vont juste contribuer à accélérer l'augmentation du prix des maisons, des propriétés, et ça va empirer la flambée immobilière avec encore plus de surenchères. Et honnêtement, tout ce que je pense que ça va faire, c'est permettre aux contracteurs de vendre leur maison neuve plus chère parce qu'il y a plus d'acheteurs qui vont pouvoir se qualifier en étirant leur période d'amortissement sur 30 ans au lieu de 25 ans. Parce que normalement, pour avoir droit à un amortissement sur 30 ans, il fallait que les acheteurs ils mettent une mise de fonds minimum de 20%. Et comme je vous dis, la nouvelle mesure qu'ils veulent instaurer va permettre d'étirer le paiement sur 30 ans avec une mise de fonds de 5%, évidemment à condition que ce soit une maison neuve. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'en faisant passer le RAP de 35 000 à 60 000 par personne, le gouvernement il pousse indirectement le monde à prendre de l'argent qu'il avait mis pour leur retraite à l'intérieur du REER, pour finalement s'endetter en achetant une maison. Et pour un couple, on parle de conjointement 120 000 $ qui pourraient sortir de leur REER sous forme de RAP pour faire l'achat de leur première maison. Par contre, il ne faut pas oublier que quelque part dans le temps, il va falloir qu'ils remboursent le montant du RAP. En fait, après la période de grâce de 5 ans, il va falloir qu'ils remettent une portion du montant, le montant RAPé, à chaque année à l'intérieur de leur REER. Et à noter que la période de grâce avant, pour le remboursement, c'était une période de 2 ans, et que là, avec le budget 2024, ils ont rajouté 3 années supplémentaires. En gros, maintenant, le monde qui a RAPé va avoir un délai de 5 ans avant de commencer le processus de remboursement du RAP dans leur REER. Mais tant qu'à moi, la bonification du RAP, c'est pas le meilleur move de l'histoire, dans le sens que avec le nouveau CELIAP, qui est beaucoup plus avantageux que le RAP, du fait que premièrement, t'as pas besoin de rembourser la somme que tu as sortie du CELIAP. Et je vous rappelle que vous pouvez cotiser 8 000 par année maximum, jusqu'à concurrence de 40 000 à l'intérieur de votre CELIAP, et que comme le CELI, mais tous les revenus de placement, gains en capital, dividendes, intérêts, c'est non imposable. Et également, pour le CELIAP, toutes les cotisations que vous faites sont également déductibles d'impôts. Donc, pour moi, le CELIAP, c'est une bien meilleure option que le RAP avec le REER. Bref, si le gouvernement fédéral voulait vraiment aider les premiers acheteurs pour le long terme, au lieu de bonifier le régime d'accession à la propriété du REER, il aurait dû, tant qu'à moi, carrément l'éliminer et seulement augmenter le plafond de cotisation du CELIAP, qui est présentement limité à 8 000 par année maximum jusqu'à un maximum de 40 000. Parce qu'il faut comprendre qu'avec le RAP, dans le futur, il faut que tu aies l'argent pour remettre la somme dans ton REER. Mais il faut aussi que tu aies l'argent pour continuer de payer tes versements hypothécaires. Donc, tu es comme un peu en train de saboter ton futur parce qu'il va falloir que, comme je vous dis, quelque part dans le temps, tu remettes l'argent que tu t'avais auto-emprunté dans ton REER. Bref, pour moi, les nouvelles mesures pour faciliter l'accès à la propriété, dans les faits, ce sont des mesures qui me paraissent contre-productives et qui sont potentiellement même néfaste du point de vue des finances personnelles pour les premiers acheteurs. Je trouve que d'essayer de trouver des mécaniques pour que plus de gens réussissent à s'endetter pour acheter une maison, c'est une espèce de cadeau empoisonné. Je considère que déjà, la pression sociale d'acquérir sa première maison, ça fait déjà en sorte que beaucoup de gens sont pris à la gorge financièrement puis qui travaillent ultimement juste pour rembourser leur hypothèque. Parce que, tu sais, un prêt hypothécaire, c'est un gros engagement. C'est probablement la plus grande transaction de la vie pour 99% du monde. Et là, décider de prolonger la période d'amortissement sur 30 ans, oui, ça permet de réduire les versements mensuels, mais de l'autre côté, ça augmente considérablement les intérêts que vous allez payer. Le coût d'emprunt devient énorme et au final, votre maison va vous avoir coûté pas mal plus cher. T'sais, je donne un exemple, on va prendre une maison très standard de 500 000 $. La personne met une mise de fonds de 5 % et si on regarde après 30 ans, avec un taux d'intérêt moyen de 4 % la maison de 400 000 va avoir coûté plus de 813 000 $, dont 338 000 $ juste en intérêt. Donc, c'est très coûteux de prolonger cette période d'amortissement-là de 25 à 30 ans. Et comme je vous dis, l'autre chose, c'est que de retirer de l'argent de son REER pour le mettre dans une mise de fonds, c'est pas le move financier le plus stratégique pour faire croître son capital. Je vous rappelle que pour profiter de l'effet exponentiel des rendements composés, donc sur les marchés boursiers, ça prend du temps. C'est là que la magie opère. Donc, si tu prends 60 000 dans ton REER puis que tu le remets tranquillement sur une période de 20 ans, donc 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans de période de grâce et après ça, tu as 15 ans pour rembourser le montant râpé, bien, c'est certain que sur une période de 20 ans, tu perds énormément de rendement sur tes placements. Et en résumé, les mesures du gouvernement fédéral à court terme, ça peut paraître comme un beau cadeau pour les premiers acheteurs, mais à mon avis, ils servent un peu du rêve de devenir propriétaire pour aller chercher des votes pour la prochaine campagne électorale. Et au final, il n'y a rien là-dedans qui améliore réellement le marché immobilier ou encore les finances des particuliers, au contraire. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je vais mettre l'emphase sur les effets nocifs de l'inflation, autant sur l'économie, les investissements et votre argent qui dort dans votre compte de banque. Donc, la semaine dernière, on a pu voir que l'indice des prix à la consommation aux États-Unis il a remonté à 3,5% pour le mois de mars, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les marchés boursiers du fait que ben là, les investisseurs commencent à s'apercevoir que les coupures du taux directeur de la part de la Fed, c'est de plus en plus improbable à court terme. Au fait, mon opinion, c'est que la question des taux d'intérêt, la question de l'inflation qui repart à la hausse, le conflit militaire en Israël, je pense que ça va pousser les marchés américains à la baisse. Et je ne veux pas sembler alarmiste, mais j'anticipe une correction boursière d'une journée à l'autre. Au fait, l'inverse me surprendrait beaucoup. Je suis en train de surveiller un paquet de titres qui se rapprochent tranquillement d'un prix d'achat que je considère comme une opportunité d'achat, une aubaine. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Mais bref, j'anticipe qu'il y ait une baisse du côté des marchés boursiers, particulièrement aux États-Unis. Sinon, de notre côté, ce matin, c'était l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Et en fait, c'était pour le mois de mars. Et on a pu constater que l'IPC est passé de 2,8% en février à 2,9% en mars. Donc, c'est une très légère augmentation si on regarde ça sur une base annuelle. Donc, comparé mars 2024 à mars 2023. Par contre, si on regarde la hausse sur une base mensuelle, c'est-à-dire d'un mois à l'autre, on parle d'une augmentation de 0,6% pour le mois de mars. Et si on prend ça et qu'on l'annualise, c'est-à-dire qu'on prend la hausse mensuelle et qu'on la multiplie par 12 mois, on aurait un taux d'inflation annuel de 7,2%. On s'entend, là, c'est de l'extrapolation. Et dans ce calcul-là, on assume que à chaque mois, l'IPC va augmenter de 0,6%. Ce serait très surprenant, très inquiétant aussi. Mais peu importe, dans tous les cas, le rythme auquel les prix au Canada continuent de monter, ça fait en sorte que notre pouvoir d'achat, il s'effrite. Et cet effet-là se fait ressentir par tout le monde. Là. Que tu sois au salaire minimum ou que tu fasses 1 million par année, notre argent, collectivement, elle perd de la valeur. Donc, d'après moi, ce qui va arriver, c'est que dans les prochains mois, les banques centrales, donc la Banque du Canada, la Fed, vont prendre la décision de redéfinir leur barème en termes d'inflation et que leur nouveau standard, pour le taux d'inflation annuel, ça va devenir autour de, ça va être autour de 3%. En fait, je pense que ça va devenir justement la nouvelle cible de la Banque du Canada, de la Réserve fédérale américaine, et que c'est de même qu'ils vont pouvoir justifier leur baisse des taux d'intérêt. Je suis de l'avis qu'on va devoir s'habituer à vivre avec un taux d'inflation dans les environs de 3% et que malheureusement, ça va devenir le nouveau normal. D'ailleurs, je tiens à attirer votre attention sur l'environnement économique au Canada, mais plus particulièrement au Québec. L'environnement se rapproche dangereusement d'un phénomène de stagflation, c'est-à-dire une période de stagnation économique combinée à un taux d'inflation élevé. En d'autres mots, l'économie québécoise n'affiche pas de croissance, le taux de chômage augmente et en même temps, les prix autour de nous continuent de monter. Vous pouvez en déduire que ce n'est pas un contexte économique qui est très intéressant et j'ai l'impression que déjà, il y a certains ménages, certains travailleurs, certains propriétaires, dirigeants d'entreprise qui ressentent déjà l'étau se resserrer sur leurs finances. Et c'est important de comprendre que la pire chose à faire, c'est de rester passif puis de regarder son cash perdre la valeur dans ses comptes de banque, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Avec le taux d'inflation qu'on connaît présentement, c'est crucial de faire travailler son argent, c'est-à-dire qu'il faut la faire fructifier à coup de gains en capital, de dividendes ou d'intérêts. Et la beauté pour ceux qui ont de l'épargne, c'est que présentement, les taux d'intérêt sont élevés. Quand tu es endetté, c'est plate. Mais à l'inverse, si tu es un épargnant et que tu as du cash à investir, ben les taux d'intérêt plus hauts, plus élevés, ça te permet de générer des meilleurs rendements. T'sais, encore aujourd'hui, on peut voir des CPG pas loin de 5%. Il y a aussi des FNB qui offrent des versements d'intérêt à chaque mois, des versements d'intérêt élevés également. Mais bref, il y a différents outils, différents instruments financiers qui vous permettent d'obtenir du rendement sur votre capital. Logiquement, de mon côté, je fais de l'investissement en bourse. C'est avec les actions que je vais me hedger contre l'inflation, surtout avec des compagnies qui peuvent augmenter leur prix. Donc, à ce moment-là, l'inflation monte, mais leur prix augmente en conséquence. Les bénéfices vont suivre. Donc, c'est un bon hedge face à l'inflation. Il y a d'autres investisseurs qui ont décidé d'opter pour des lingots d'or. Donc, on a pu voir le prix de l'or monter en flèche depuis quelques semaines. Donc, c'est un autre edge face à l'inflation. Et l'élément fondamental à considérer avec tout ça, c'est la notion, en fait, de rendement réel. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter encore une fois. Pour calculer le rendement réel, c'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, il faut prendre votre rendement annuel et soustraire le taux d'inflation annuel. Donc, par exemple, si l'année passée, votre rendement a été de 10% et que, disons que l'IPC a augmenté de 3% durant la même année, bien, le rendement réel de vos investissements, c'est 10% moins 3%, ça donne 7%. C'est le rendement réel. Donc, le rendement réel fait référence au rendement, mais en considérant la perte du pouvoir d'achat qui découle de l'inflation. Et durant les 10-15 années avant 2021, avant qu'il y ait une résurgence de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat était quand même négligeable parce que c'était en bas de 2% par année. Mais là, dans les trois dernières années, le taux d'inflation annuel il a été de 3,4% en 2021, 3,9% en 2023 et on a atteint un sommet durant l'année 2022 lorsque l'inflation a atteint 6,8%. Donc on s'entend que sur trois ans, ça commence à avoir un impact qui est significatif sur vos rendements en bourse et évidemment, ça a aussi beaucoup d'impact sur votre argent, l'argent qui dort dans vos comptes de banque, dans un compte chèque, dans un compte qui n'a pas d'intérêt, pas de rendement. Et comme je vous dis, au fil du temps, votre pouvoir d'achat diminue et avec des niveaux d'inflation qu'on connaît en ce moment, ne rien faire fait en sorte que vos dollars durement gagnés ben, valent de moins en moins et vous permettent d'acheter moins de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre action et trouver une manière de faire fructifier son argent. De mon côté, vous pouvez le deviner, j'opte pour l'investissement en bourse. J'ai vraiment un portefeuille qui a une exposition majoritaire aux actions. Mais du côté personnel, j'ai également des CPG. Mon encaisse est investie dans des FNB qui génèrent des intérêts mensuels. Donc, il n'y a pas d'argent nulle part qui est laissé à dormir puis qui subit l'inflation mois après mois. Donc, comme je vous dis, c'est une notion essentielle de comprendre que l'inflation est là. Elle est là, à mon avis, pour durer. Et je pense que c'est important de se conscientiser sur la possibilité qu'on est maintenant dans une nouvelle réalité économique avec un niveau d'inflation plus élevé, des taux d'intérêt plus élevés et potentiellement un ralentissement économique qui se bâtit en arrière-fond. Donc avec des pertes d'emploi, un taux de chômage qui grimpe. Je ne veux pas paraître très pessimiste, mais c'est ce que les faits, c'est ce que les données économiques me disent. Donc, il faut être prêt à ça et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable en espérant que tout se passe bien. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous trouvez le contenu pertinent. J'espère que ça amène des pistes de réflexion. Et si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez une évaluation sur Apple Podcasts ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et nous, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.